Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui n'étaient pas là hier et à ceux qui l'étaient. Je vais répéter des choses que j'ai dites hier au sujet de foi et partage. OK. Un petit peu plus fort. Tout le monde m'entend? Certain? Un petit peu plus haut. Tout le monde m'entend? Dans le micro. Est-ce que tout le monde m'entend?
Oui.
Bon. Alors, je répète des choses que j'ai dites hier, que foi et partage, ça fait 50 ans que ça existe. Ça a débuté en Ontario, à Mary Lake, avec Jean Vanier. Le 30 août, 7 septembre 68. Puis, je vais répéter, c'est bon de le répéter, les endroits où il y a foi et partage et qu'on a eu aussi cette année, comme les autres années, des retraites de foi et partage. Alors, Montréal, Ottawa, Rouyn-Noranda, Sherbrooke, Valleyfield, Vancouver, Yarmouth, Toronto, Cleveland, Détroit, Jacksonville, et je m'étais mis une note hier, j'avais oublié de la noter, il y avait encore, il y a peut-être plusieurs années, peut-être une dizaine d'années maximum, il y avait Matane, dans le bas du fleuve. Il y avait aussi, il y a peut-être une quinzaine d'années, il y avait aussi Neuville. Alors, Chicoutimi, oui, Jonquière, Chicoutimi, ça existait. Puis la personne qui est en charge de ça est encore en contact avec nous. Je ne répéterai pas la lettre que Mgr Lacroix nous a donnée hier, Mais juste pour vous dire qu'il est avec nous, qu'il prie avec nous. Alors hier, on a commencé notre retraite sur apprivoiser la solitude. Et qu'est-ce qu'on a retenu? Moi, qu'est-ce que j'ai retenu? C'est que c'est l'accueil, l'accueil inconditionnel. On en discutait dans le groupe un matin des responsables. Chacun avait ressenti quelque chose. Moi, c'est au niveau de l'accueil. Puis aujourd'hui, bien, on va continuer encore avec l'accueil. Parce qu'en fait, je pense que dans l'accueil qu'on a eu hier, qu'on a eu aujourd'hui, je pense que Jésus nous appelle à accueillir les autres. Puis, c'est ça que j'ai senti hier. Je ne l'ai peut-être pas vu en personne, mais j'ai vu des gens qui venaient à la retraite avec un grand sourire, puis qui ont aimé leur journée. Alors, aujourd'hui, il est encore parmi nous, surtout aujourd'hui, parce que nous allons voir le lavement des pieds. On peut dire, en fait, un sacrement, parce que c'est un sacrement qui est bien important pour nous, à foi et partage. Le lavement des pieds et ceux qui ne peuvent pas avoir le lavement des pieds, ils peuvent aussi avoir le lavement des mains. Alors, c'est un geste important. C'est un geste important parce que il y a du respect, il y a beaucoup d'humilité, puis je pourrais dire aussi que c'est une chose qui est faite avec amour, avec respect, en profondeur. Ça vient nous chercher. Vous allez voir, ceux qui n'ont jamais assisté ou qui ont pas longtemps qu'ils l'ont fait, ça vient nous chercher. Par celui qui nous lave les pieds, et quand on se fait laver les pieds ou les mains, c'est un geste important, puis qu'on ne fait pas souvent, surtout les hommes. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un geste, je pourrais dire même sacré, parce qu'Hélène nous disait hier, on est toutes des personnes sacrées. Alors, je pense que vous allez aimer ça. Et après, nous allons voir dans la même équipe le partage. À ce moment-là, vous allez vous exprimer sur, justement, cette action-là que vous venez de faire. Et après ça, on va avoir le souper. Et ce soir, le sacrement du pardon. Le sacrement du pardon, il y en a beaucoup qui ont assisté. Alors, à ce moment-là, c'est un sacrement du pardon, encore une fois, qui est propre, peut-être à foi et partage. C'est quelque chose aussi de profond que vous allez goûter, que vous allez aimer, qui va venir vous chercher encore. Alors, moi, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, excepté que il y a toujours l'adoration, ici, à côté. Il y a l'adoration lorsqu'on commence notre journée, mais il y a l'adoration ici, à côté, ici, dans l'hôtel. C'est toujours ouvert. S'il y en a qui se sentent prêts à y aller ou qui aimeraient mieux être là plutôt que faire le partage, vous avez le choix. J'avais le choix d'être à l'adoration. Et l'adoration, en fait, c'est une continuité, d'une certaine façon, de dire que Jésus est parmi nous aussi, parce qu'il est là, mais il est dans nos équipes. Dans nos équipes, puis quand on se côtoie, puis qu'on s'accueille, il est là aussi. On ne le voit pas en personne, mais on le sent. Alors, je vous souhaite une belle journée. Encore une fois, gardez vos programmes et vos macarons pour les rapporter demain. Et ceux qui pensent les perdre, bien, laissez-les à l'accueil. Et ceux aussi qui n'ont pas de nom, mais de numéro pour les équipes, les nouveaux et nouvelles, après la parole, viendrez ici à l'avant, puis je vais vous indiquer dans quel groupe que vous allez aller. S'il y en a 3, 4, 5, 6, ça va me permettre à ce moment-là peut-être de combler les vides dans certaines équipes. Alors, je laisse la parole à Hélène, qui va nous parler du lavement des pieds et bien d'autres choses.
Alors bonjour de nouveau, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Jusqu'en arrière?
Oui.
OK. Parce qu'hier, il semblerait que ça a été difficile. Alors, je vous demanderais, si vous n'entendez pas, ça se peut que je baisse le ton, levez la main. À ce moment-là, je vais vous voir, puis je vais continuer de parler un peu plus fort. Ça vous va?
Oui.
Alors, aujourd'hui, nous parlons, entre autres, de la solitude et de l'isolement et du lavement des pieds. Alors, nous sommes toujours dans ce thème de la solitude et parfois, elle nous est imposée par la vie. On ne la choisit pas nécessairement. Mais nous pouvons toujours dire que nous avons le choix de choisir la façon de la vivre. Alors, même si elle nous est imposée, nous, il nous reste un choix. Comment je vais la vivre, cette solitude-là? Et on peut même dire que la solitude est nécessaire pour s'arrêter, se retrouver, faire le point sur nous-mêmes, sur nos activités. Quel genre d'activité je fais? Est-ce que ça me fait grandir? Sur nos engagements, sur nos amitiés. Est-ce que cette amitié-là me fait encore vivre? Est-ce que ça vaut la peine que je m'investisse à nouveau? Ou sinon, parfois dans notre vie, il y a des amitiés qu'on laisse tomber, hein, parce qu'on se rend compte que c'est peut-être juste superficiel. Alors, on préfère aller vers d'autres amitiés qui vont nous nourrir davantage. Mais on s'arrête aussi pour accueillir Dieu dans notre vie, lui ouvrir son cœur, lui permettre d'agir en moi pour me libérer, pour retrouver aussi la motivation et la paix dans des périodes où on est plus fatigué, plus désabusé. Si on s'arrête et qu'on prend le temps de réfléchir, ça nous redonne cette paix et cette motivation pour continuer. Et je voudrais insister sur l'importance, on en parle dans plusieurs revues présentement, l'importance du réseau social et les dangers de l'isolement. Et on disait hier que c'était très important, hein, que l'isolement était quelque chose qui peut conduire à la maladie et même à la mort, hein, au suicide, au découragement. Alors l'importance de ce réseau social, d'avoir des gens avec qui parler, avec qui être ensemble. Et enfin, pour cette ouverture à l'autre, cultiver cette ouverture à l'autre, parce qu'on a souvent tendance à se replier sur nous-mêmes. Et quand on prend un temps de solitude, de réflexion, ça nous permet d'ouvrir de nouveau notre cœur aux autres. Et nous allons parler maintenant du lavement des pieds, parce que ça va être vraiment notre activité de cet après-midi, notre célébration de cet après-midi. Alors, d'où vient cette importance que Jean accorde au lavement des pieds, hein? Parce que Jean ne parle pas, Saint Jean, dans son évangile, ne parle pas de l'Eucharistie, du pain et du vin, hein, de la consécration du pain et du vin. Jésus qui dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais il parle du lavement des pieds. Ce que je vais vous dire maintenant, hier, Pierre-René avait parlé selon un document de Sherbrooke, de l'Université de Sherbrooke. Moi, cet après-midi, c'est selon ce petit livre de Jean Vanier qui dit « Aimer jusqu'au bout » ou « Le scandale du lavement des pieds ». Alors, si vous voulez y revenir, « Aimer jusqu'au bout » ou « Le scandale du lavement des pieds ». Je vais commencer un petit peu par, si des gens ne connaissent pas trop l'Arche, je vous disais que moi je vis, je travaille à l'Arche, alors un petit peu d'histoire. Jean Vanier commence par ça, hein, pour que les gens qui lisent le livre savent qui est celui qui leur parle et qu'est-ce que c'est que l'Arche. Alors le geste de Jésus du lavement des pieds et de ses disciples peut à notre époque paraître banal aux uns et choquer les autres. À l'Arche, il a pris une signification profonde. Alors, Jean Vanier raconte l'accueil de Raphaël Simi et Philippe Seuss. Ce sont les deux personnes qu'il a accueillies au début à l'Arche avec lui dans sa maison et qui venaient d'une institution qui les avait marquées d'une manière violente et douloureuse. Et lui a commencé à vivre avec eux et à découvrir leur richesse, leur potentiel, et à être vraiment des amis. C'est ce à quoi il s'attendait. Et Jean disait comment ça l'a changé. Lui qui était un ancien officier pour qui la discipline et la régularité étaient importantes, pour eux, c'était pas ça qui était important. Hein? Mais c'était, est-ce que tu veux être notre ami? Et c'était de cultiver ensemble leur jardin, de peinturer la maison, parce que c'était une maison qui était assez débraillée quand il l'a achetée. Donc, ils ont renouvelé, rénové la maison, ils ont cultivé un jardin, ils ont pris ensemble le temps de créer des liens, de créer des relations, de vivre. Nous vivons ensemble, personnes avec un handicap intellectuel et personnes qui veulent les accompagner et devenir leurs amis. C'est ce qu'on appelle à l'Arche les assistants. Personnes faibles ont besoin des personnes plus fortes. Mais aussi, l'inverse est vrai, les personnes fortes ont besoin des personnes plus faibles. Et c'est ce qu'on découvre quand on vient à l'Arche. Nous avons besoin les uns des autres. Les personnes faibles et vulnérables peuvent attirer ce qu'il y a de beau et de lumineux chez les assistants. Elles les appellent alors à ouvrir leur cœur et leur intelligence à la compassion, à aimer intelligemment et non pas seulement de façon sentimentale. Les plus faibles amènent ceux qui sont les plus doués à découvrir leur humanité, à quitter un monde de compétition pour mettre leurs énergies au service de l'amour, de la justice et de la paix, à mieux assurer leur propre faiblesse et leur fragilité, qu'ils recherchent souvent à cacher derrière des masques. Jean nous parle du temps où il a accueilli Loïc dans un foyer qui s'appelle la Forestière, qui, à l'Arche, est le foyer pour les personnes grabataires, celles qui sont lourdement handicapées. Et il dit que quand à l'accueil de Loïc, c'est un homme qui maintenant a 40 ans, mais qui a l'air d'un enfant de 5 ans. Il est petit, il est faible, il ne parle pas, ses capacités de compréhension sont très limitées. Mais Loïc a un cœur sensible et aimant. Il détecte vite si le cœur de la personne qui est proche de lui est ouvert, attentif et aimant. Moi, j'ai été passé un mois à Trolley à un moment donné et j'avais été à la Forestière. Et je suis arrivée un soir et on m'a mis Loïc sur moi. J'étais assise par terre en indien là, et on m'a mis Loïc sur moi et on m'a demandé d'en prendre soin, d'être avec lui pour la soirée. Et c'était providentiel parce que je venais de vivre 2 mois de formation en France pour l'Arche et j'étais arrivée pour vivre 1 mois maintenant, plus de retraite à Trolley. Mais je travaillais au foyer des enfants ici à Québec et je m'ennuyais des enfants. Ça faisait 2 mois que je les avais pas vus et on m'a mis Loïc dans les bras pour la prière du soir, pour une partie de la soirée. Et ça a été pour moi une grande, grande joie et une grande paix que j'ai vécue avec Loïc. Et à la fin, quand la prière était finie et que l'assistant est venu le chercher pour aller le coucher, il m'a dit « Mais vous avez donc l'air bien tous les deux ensemble. » Et je pense que c'était la vérité. Loïc avait l'air bien dans mes bras et moi, il m'apportait beaucoup par sa présence. Il était pour moi un peu ce qu'étaient les enfants dans mon foyer normalement. Alors ce Loïc est capable de percevoir un cœur aimant près de lui. Jean Vanier dit, pour sa part à lui, « Il a fait tomber mes attitudes de défense, mon désir de succès et mon besoin d'avoir toujours raison dans les discussions. » C'est Jean Vanier qui dit ça. Et c'est Loïc, parce que Jean Vanier a passé une année sabbatique à la Forestière avec les personnes lourdement handicapées. Et il a dit comment ça avait changé sa vie. Et on voit ici, là, juste parce que Loïc a fait tomber chez lui, comment c'était important pour lui. Les personnes faibles et vulnérables peuvent aussi éveiller dans nos cœurs ce qu'il y a de plus laid et ténébreux. Par leurs provocations, leurs cris, leurs exigences et leur fermeture sur elles-mêmes, elles peuvent susciter l'angoisse et la violence. Mais là encore, n'est-il pas nécessaire pour grandir humainement de découvrir nos violences, nos puissances de haine, les blessures profondes que souvent nous ressentons comme honteuses et que nous gardons cachées? À l'Arche, nous apprenons peu à peu à gérer de façon positive ces énergies et ces peurs et à nous libérer des puissances de destruction qui sont en nous. Et je puis vous dire que moi, j'ai appris que j'avais de la violence en moi par Richard dans mon foyer, qui avait vécu un mois de violence, où il se levait le matin et à tous les déjeuners, il frappait sur la table et il était violent. Et j'étais désespérée, je me demandais qu'est-ce qui se passait, etc. Parce que cette violence-là venait tellement chercher la violence qui était en moi, qui me l'a fait découvrir. J'aurais voulu le battre. Une chance qu'on est en équipe à l'Arche, puis qu'il y en a d'autres à côté de nous. Mais ça venait tellement me chercher. Et Jean Vanier parle aussi d'Éric, qui était une personne comme ça, qui criait beaucoup, et comment lui, ça venait le chercher aussi. Alors, on a des personnes comme ça, parfois dans nos vies, qui viennent nous révéler à nous-mêmes des choses qu'on porte en dedans et dont on n'a pas pris conscience. Et quand j'en ai pris conscience de cette violence-là, pas besoin de vous dire que j'ai pleuré. Je m'étais jamais pensée, perçue comme une personne qui pouvait avoir de la violence en dedans. Mais Richard me l'a mis à jour. Alors, il nous révèle à nous-mêmes souvent, par leurs attitudes, par leurs souffrances ou par leurs actes. Nos sociétés actuellement accentuent notre besoin d'indépendance et d'autonomie. On en a beaucoup parlé. Par la compétence et la force. Mais c'est un danger. C'est aussi le danger d'oublier que nous sommes d'abord des êtres de relation, appelés à s'ouvrir à l'autre et à les servir. Chacun est appelé à être responsable de la création dans le monde, où il y a davantage de solidarité et d'amitié, où nous pouvons créer cette solidarité et cette amitié. Le repli sur soi-même conduit à un étouffement du cœur. On en a parlé hier. De toutes les énergies d'amour à une indifférence par rapport aux autres, qui crée de grandes inégalités entre les forts et les faibles. Cela produit des jalousies, des haines, des guerres et la mort. Le fondement de la vie communautaire à l'Arche, c'est la relation gratuite. Et aujourd'hui, on a tendance à dire plus ce sont les relations qui transforment. Parce que l'autre me transforme et moi, je transforme l'autre aussi. Mais c'est cette relation gratuite. Ce cœur à cœur, c'est la joie de découvrir notre humanité commune, de se reconnaître cœur à cœur, personne à personne, comme des humains semblables. Et il y a une chanson qui dit « Ton visage est différent du mien, toi et moi, on n'est pas pareil, mais en toi, c'est comme en moi, notre cœur est fait pour aimer. » Je pense que ça traduit une belle réalité de notre être, notre humanité commune, ce cœur qui est fait pour pour aimer, et ce cœur qui est à l'image de Dieu, qui est amour. La relation, c'est une attitude d'écoute, d'accueil, de confiance envers l'autre. Cette attitude mène à la communion, qui est un va-et-vient d'amour où chacun donne et se réalise et où chacun reçoit. Souvent, à l'Arche, les gens nous disent, et ça me blesse à chaque fois, les gens nous disent, c'est donc beau ce que vous faites à l'Arche, comme assistante. Ça veut dire qu'ils pensent que l'assistante est là puis qu'il donne, puis que la personne handicapée est là puis qu'elle reçoit. Et il faut détruire cette image qui n'est pas vraie, parce qu'à l'Arche, c'est comme ça. C'est ce que je viens de vous dire. On donne et on reçoit, ensemble. C'est l'égalité, et non pas les bons et les pas bons, ou les faibles et les forts. Oui, mais dans une relation d'égalité. On donne et on reçoit. Communion, on forme finalement cette communion, on vit en communion, qui est le lieu de la confiance et du respect mutuel. C'est ce qu'on a lu dans notre chant de chantème de la retraite. Hein? C'est la confiance et rien que la confiance qui nous conduit à l'amour. Elle implique humilité, ouverture à l'autre, vulnérabilité. Et c'est aussi un partage de nos dons, de nos richesses, mais aussi de nos pauvretés et de nos limites. Et on prend juste le lavement des pieds. Comment c'est difficile de partager nos pauvretés et nos limites. On ne veut pas montrer nos pieds. Hein? C'est quelque chose d'intime, on va y revenir tout à l'heure. Mais c'est un lieu de partage de nos richesses, mais aussi de nos pauvretés. Parce que si je partage ma pauvreté, souvent c'est ce qui va faire le plus grandir l'autre. Les confidences que je vais lui avoir faites sur ma faiblesse, sur ma vulnérabilité, qui va rejoindre sa faiblesse et sa vulnérabilité. Et ça va nous faire grandir mutuellement. Alors que quand on partage souvent nos forces, ça fait moins grandir. Hein? Souvent, c'est plus de la jalousie que d'autre chose. Ou de l'orgueil. La communion et la communication. La parole. On peut communier par la parole. On peut communiquer par la parole. Mais aussi par la communication non-verbale, par tout le corps. Et ça, on apprend ça beaucoup à l'Arche, justement avec les personnes lourdement handicapées. Ici, à deux rues d'ici, c'est le foyer du Croissant, et il y a William qui est là, qui est arrivé tout petit à l'Arche, et qui maintenant est âgé de 32 ans, je pense, ou 42, quelque chose comme ça. Donc, il est devenu un homme, hein, mais qui est sourd et aveugle, et en fauteuil roulant. Alors, moi, j'ai appris avec William un nouveau langage, le langage du corps. Et Jean-Vanier nous dit qu'il a appris avec Éric à la Forestière ce langage du corps. Mon corps qui est capable de te dire « je t'aime » par la manière dont je vais te toucher. Le toucher est un sens dont on diminue souvent l'importance. Quand quelqu'un vous met la main sur l'épaule pour vous encourager, hein, ou quand quelqu'un vous donne la main et que vous sentez que c'est sincère, c'est un mode de communication très puissant. Vincent, qui est arrivé à l'Arche, qui est décédé maintenant, quand il est arrivé à l'Arche, il était resté à l'hôpital 2 ans parce que ses parents l'avaient laissé là parce que le médecin leur avait dit « Vous ne pourrez rien faire avec, fait, laissez-le à l'hôpital et dites à votre famille qu'il est mort. » Imaginez-vous comme quel conseil, hein? Mais on retourne 40 ans en arrière. Alors, aujourd'hui, j'espère que ça ne se dira pas. Hein? Alors, les parents l'avaient donc laissé à l'hôpital parce qu'ils étaient tellement désemparés qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bien, le médecin, il sait sûrement mieux que nous autres qu'est-ce qu'il est à faire. Alors, Vincent est resté 2 ans à l'hôpital avant d'arriver à l'Arche. Et quand il est arrivé, il était raide comme une barre, hein? Les poings fermés. Parce que quand on n'est pas touché, quand on n'a pas de relation, on se durcit, on veut se défendre. Et Vincent était comme ça. Et ça a pris au moins 6 mois dans l'Arche à lui donner son bain et à le flatter et à le bercer, etc. pour qu'ils réussissent à se détendre dans nos bras. Alors, la communication non-verbale par le toucher, entre autres, hein, mais aussi, donc, par tout ce corps. Et notre corps est un élément de communion. C'est pas juste un élément d'abus, mais c'est vraiment un élément de communion. Une personne se révèle comme telle par le regard, par le geste du cœur, par l'accueil et par l'amitié. Excusez-nous. Le lavement des pieds, une paraliturgie. Comment Jésus veut changer nos cœurs? Jésus appelle ses disciples surtout à une attitude intérieure, une attitude de serviteur en toutes choses. Cependant, à l'arche, nous avons découvert que nous laver les pieds les uns les autres est aussi un geste important à accomplir. Et ça, c'est la communauté de Liverpool en Angleterre qui a été la première à le vivre à l'arche. Et ensuite, ça s'est communiqué aux autres. Et maintenant, je pense que la plupart des communautés de l'arche font cette célébration paraliturgique, entre autres le Jeudi Saint, mais aussi à la fête de la communauté. On va parler un petit peu du déroulement, mais vous allez probablement en entendre parler aussi quand vous allez être en petit groupe. Okay. À l'arche, on commence toujours par un chant, et ensuite le texte, évidemment, de Saint Jean, où Saint Jean raconte comment Jésus a vécu le lavement des pieds. Par la suite, le responsable du foyer, ou de la communauté, lave les pieds de la personne qui est à sa droite, et les essuie avec respect et tendresse. La personne qui a eu les pieds lavés, puis on prend le temps, hein? On ne fait pas ça vite, on prend le temps de manifester par nos mains la douceur, la tendresse, le respect. Hein? Manifester ça à l'autre. Et à la fin, après, la personne qui a eu les pieds lavés met ses mains sur la tête de la personne qui lui a lavé les pieds et prie sur elle. Elle prend quelques instants en silence. C'est un geste qui signifie la reconnaissance et le désir de vivre la communion des cœurs. Le responsable retourne à sa place et par la suite, celle qui a eu les pieds lavés, ou celui qui a eu les pieds lavés, lave les pieds de son voisin ou sa voisine de droite. On continue en silence jusqu'à ce que tout le monde ait les pieds lavés et ait lavé les pieds de son voisin. Et à la fin de cette paraliturgie, pour nous à l'arche, nous nous donnons la main et nous disons le Notre Père. Ici, vous allez garder un temps de silence et par la suite, vous avez un temps où vous allez échanger entre vous sur ce que ça vous a fait, ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que ce geste-là a signifié pour vous. Nous communions par nos gestes. À Lourdes, à Pâques, en 71, les autels étaient pleins. Et un des moments les plus forts du pèlerinage, ça a été ce lavement des pieds qui a été vécu par les différents groupes des différents pays dans chacun des autels. Et ça s'est révélé comme un des temps forts du pèlerinage en 71. Aussi, dans les retraites écuméniques, ou encore dans les retraites interreligieuses, c'est-à-dire de plusieurs religions. Le lavement, la table eucharistique, hein, l'Eucharistie n'est pas possible pour tout le monde. On ne peut pas communier tout le monde à l'Eucharistie, mais le lavement des pieds est possible pour tous. Alors, c'est comme ça qu'à l'Arche, dans plusieurs de nos célébrations, nous avons le lavement des pieds, parce que c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de distinction au niveau des religions à ce moment-là. Parce que tout le monde, on peut laver les pieds de quelqu'un et avoir ses pieds lavés par quelqu'un. Le lavement des pieds, maintenant, dans l'Évangile. en Jean 13, Jean commence le récit de la descente de Jésus dans la petitesse et la faiblesse. Jésus s'est montré fort, il a fait des miracles, il a prêché, il a fait un enseignement, etc. Il a guéri des malades. Mais maintenant, il se montre faible. Il descend dans la petitesse et la faiblesse. Cette descente a commencé avec le Verbe devenu chair dans le ventre de Marie. Elle se poursuit de façon sensible pour les disciples avec le lavement des pieds. Et elle va s'achever dans l'agonie, la passion, la crucifixion et la mort. Jésus descend dans la faiblesse, il se laisse vaincre. Et c'est pour ça que Saint-Pierre va être découragé, hein, va être déconcerté. Jésus se lève de table et dépose ses vêtements. Puis il se met à genoux devant chacun de ses disciples pour lui laver les pieds. Dans une attitude d'humilité, de soumission, de supplication, de faiblesse. À genoux, on ne peut se défendre, on ne peut plus bouger. Nous sommes en face d'un Dieu qui se fait petit et pauvre, qui descend l'échelle de la promotion humaine, qui prend la dernière place, la place de l'enfant ou de l'adulte, parce que le lavement des pieds dans le temps de Jésus, c'était les esclaves qui faisaient ça. Et Jésus descend au niveau des esclaves. Jésus lave les pieds de ses disciples au cours du repas, ce qui est totalement inhabituel. Hein? On lave les pieds d'habitude quand les gens arrivent dans la maison, hein? Parce qu'ils ont fait une longue route, qu'ils ont les pieds pleins de poussière. Ou Jésus aurait pu les laver au début du repas. Ça aurait paru plus un geste de purification. Mais il le fait en plein milieu du repas. Alors, on peut peut-être soupçonner l'étonnement des apôtres de voir Jésus tout à coup, ils étaient en train de manger, enlever son vêtement pour leur laver les pieds. Jésus dépose son vêtement. Dans le Nouveau Testament, on parle des vêtements et de la tunique. Les vêtements désignent la robe extérieure et la tunique une sorte de vêtement de dessous, une tenue d'intérieur, de familiarité. Les Juifs la portaient chez eux, dans l'intimité de leur famille et des proches. Et ils mettaient la robe ou le vêtement extérieur quand ils sortaient ou pour recevoir des invités. Alors Jésus enlève le vêtement extérieur et il garde la tunique qui symbolise l'intimité avec ses disciples. Les vêtements extérieurs manifestent une fonction. Ça, c'est Jean Vanier qui a parlé de ça à partir du texte de Jésus. Quand vous regardez quelqu'un, ces vêtements-là, ils expriment une certaine identité, une dignité ou une autorité, une place dans la hiérarchie sociale. Ils indiquent un certain statut. Pensez aux gens de l'armée, de la marine, de l'aviation, aux juges, aux avocats, etc. Il y a un vêtement qui signifie, les policiers par exemple, etc., qui signifie un statut social. Et là, Jésus enlève ce vêtement. Déposer ses vêtements et reprendre ses vêtements, parce qu'il va les reprendre par après. Déposer ses vêtements a donc ici le sens de donner sa vie. Parce que si on voit, plus tard, Jésus va faire la même chose quand il va mourir. Il dépose ses vêtements et il reprend les vêtements. Et ça veut dire qu'il donne sa vie dans le symbole qu'il fait ici. En ôtant ses vêtements, Jésus se situe en dehors d'une fonction ou de tout statut social. Il est maître et prophète, il a un certain pouvoir, il possède une certaine autorité, mais il veut se manifester aux disciples comme une personne, et seulement comme une personne, non avec pouvoir et autorité. Avant d'être le maître et le Seigneur, il est un cœur qui veut rencontrer des cœurs, un ami qui veut rencontrer des amis, une personne aimante qui désire vivre dans le cœur de ses amis. Dans ce domaine du cœur, tous sont semblables. Les personnes sont toutes égales. Toutes ont la même dignité. Toutes sont des personnes dont l'histoire est sacrée, comme on a déjà vu hier. La seule hiérarchie est celle de l'amour, et elle reste cachée. C'est le secret du cœur de chacun. À la fin de notre vie, nous serons jugés selon notre cœur. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il y a des résistances du côté des disciples. Cette résistance est peut-être en chacun de nous, et je dirais est sûrement en chacun de nous, à certains moments. Parce que souvent, on n'accueille pas Dieu dans ce qu'il nous dit à travers les événements ou à travers les gens qui nous entourent. Et on ne veut pas entendre, on se bloque. On bloque la relation. Alors ici, c'est Pierre qui résiste. Jésus parle avec autorité, force et netteté à Pierre. Parce que Pierre, il dit, non, 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 jamais tu ne feras ça. Il est tellement déconcerté de voir Jésus au rang d'esclave, alors qu'il l'a toujours vu comme fort, comme le Messie. Il dit, non, 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 tu ne feras pas ça, ça ne se peut pas. Et Jésus parle avec autorité, avec force, avec netteté à Pierre, pour qu'il comprenne. Et il y va assez fort, merci. Il dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » En Saint Jean, au chapitre 13. Ça veut dire, tu n'es plus mon disciple, mon ami, tu n'as qu'à partir. Autrement dit, si ça ne fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. Alors, Pierre, c'est le contraire. On sait sa réponse après, il veut se faire laver au complet. Puis là, Jésus dit, ben non, t'es propre déjà, t'es déjà lavé. Alors, se laisser laver les pieds par Jésus n'est pas facultatif. C'est une condition sine qua non pour devenir son ami et entrer dans une nouvelle relation plus intime avec lui. Jésus, il laisse pas le choix à Pierre. Si je ne te les lave pas, t'es pas mon ami. Pierre a pris conscience de la gravité et de la sévérité de la réponse de Jésus, et il a été ébranlé. Jésus demande ensuite à ses disciples d'agir de même. Il dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » Et Dieu doit nous dire ça de temps en temps aussi. « Comprends-tu ce que je t'ai montré dans ta vie, là, à travers tel événement, à travers telle personne? As-tu bien compris? » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi, j'ai fait pour vous. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son maître. Voyons. Le serviteur, excusez, n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous faites de même. » Donc, une béatitude que Jésus fait à partir du lavement des pieds. Vous êtes heureux si vous faites comme je viens de faire. Si Jésus lave les pieds de ses disciples, c'est bien pour leur signifier son amour pour chacun et pour leur montrer que l'humanité, que l'humilité et le service sont les clés de son message. C'est un exemple que Jésus leur donne, et ce n'est pas facultatif. Et il est à noter que c'est la seule fois dans tout l'Évangile que Jésus dit, c'est un exemple que je vous donne. Donc, il accorde beaucoup d'importance. Il insiste sur l'exemple à suivre pour être disciple de Jésus. Pour avoir part à son royaume, il faut aller jusque-là. Il faut faire des gestes de folie, apparemment dépourvus de bon sens, qui vont à l'encontre de toutes les habitudes, les traditions ou les coutumes de nos cultures. Il faut parfois avoir de l'audace en étant chrétien pour faire des choses qui ne se font pas. Certes, Jésus nous demande surtout d'avoir une attitude intérieure envers les autres. Il ne s'agit pas seulement de laver les pieds. Le geste signifie et symbolise l'amour humble et aimant que nous devons constamment offrir aux autres. Mais si Jésus insiste sur le fait de laver les pieds, c'est que ce geste de toucher les pieds d'un autre est très important. Il faut garder le symbole, car il contient un don et une grâce. Toucher les pieds, c'est pas banal. Hein? Je touche à l'intimité. À l'âge, quand on donne un bain à quelqu'un, on touche à son intimité. Puis on a juste à voir comment on est mal à l'aise, nous, de se faire toucher les pieds. Hein? On aime beaucoup mieux se faire toucher les mains, c'est plus facile. Hein? Mais se faire toucher les pieds, ça vient nous chercher plus loin. C'est vraiment dans notre intimité. Hein? Les béatitudes au cœur du message de Jésus constituent comme l'essentiel de son message la charte des chrétiens. En même temps, elles sont un don de Dieu. Elles introduisent les personnes dans un nouveau rapport à Dieu. Il y a des béatitudes officielles qu'on voit dans les évangiles. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, etc. Hein? En Matthieu et en Luc. Mais aussi d'autres béatitudes cachées au fil des évangiles. Et la béatitude du lavement des pieds dont on vient de parler. C'est une joie profonde de laver les pieds des petits, des humbles, de vivre en communion avec eux. C'est une joie profonde, mais souvent cachée, d'être unie à Jésus dans la souffrance, le rejet, les larmes, et de savoir qu'il est là avec nous. C'est une joie profonde de savoir qu'il y a une signification profonde à toutes nos peines. Béni es-tu si tu as une âme de pauvre. Alors Dieu est proche de toi. Il a une réelle bénédiction à vivre, comme Jésus a vécu. Dieu est proche des gens qui lavent les pieds des autres et mangent à table avec les pauvres. Dieu veille sur eux, les protège, leur donne une nouvelle force. Encore plus, Dieu vit en eux. Ils deviennent comme Jésus, ils ont revêtu le Christ, ils sont devenus des personnes nouvelles. C'est là la joie profonde et le signe de la présence de Dieu sur la terre, les témoins. Nous comprenons alors que les béatitudes sont un don nouveau de Dieu. Naturellement et humainement, on ne peut les vivre. Mais elles sont le fruit de la présence de Dieu et placent des personnes dans une nouvelle relation à Dieu. Nous allons nous lever pour chanter avec May et avec... Ouais, cherchons nom. Claire, et avec Claire. Avec May et avec Claire.
Bon berger, je donne ma vie pour mes brebis.
Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Pour mes brebis.
On reprend le refrain.
Je suis le bon berger.
Amènerai, parce que je t'aime.
sens blessé, je te consolerai. Parce que je t'aime, je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis, pour mes brebis. La brebis chétive, je la nourrirai. Toutes ces fatigues la feraient reposer. Toi qui te sens fragile, je te conforterai. Parce que je t'aime. Je suis le bon berger et je donne ma vie pour mes brebis. Je lui sifflerai, et si elle s'arrête, je la pousserai. Toi que la vie disperse, je te recueillerai, parce que je t'aime. Je suis le bon berger, et je donne ma vie.
Merci Hélène pour cette introduction à ce sacrement, comme le disait tout à l'heure Jean-Claude. Un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous donner la grâce, cette définition du sacrement, ceux qui ont connu le catéchisme s'en souviendront par cœur. Il y en a beaucoup de signes sensibles qui nous donnent la grâce. Dans l'histoire de l'Église, nous voyons qu'il y a eu souvent plus que 7 sacrements, et que ce n'est qu'au Moyen-Âge qu'on a fixé la liste de 7 sacrements tels que nous les connaissons. Il n'empêche que dans notre existence, la vôtre comme la mienne, il y a beaucoup de signes de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, et beaucoup de choses sensibles qui nous révèlent l'amour de Dieu. Dans ces journées sur la solitude, vous savez bien que regard bienveillant, c'est parlant. Et à certains moments, ça peut changer une vie. J'ai été témoin d'une scène à Place Sainte-Foy où une maman entrait au centre d'achat en hiver avec une poussette. Il y avait un enfant dans la poussette et elle en avait deux attelés autour d'elle pour entrer, qui marchait un peu. Puis il y a une autre madame qui a ouvert les portes pour la laisser rentrer et qui a pris du temps pour délivrer les enfants des combinaisons d'hiver, aider la maman à prendre son souffle pour entrer dans le centre d'achat. Elle a fait ça comme si elle avait été une grand-maman, spontanément. Puis la maman a simplement dit, « Oh, vous, si vous saviez comme vous m'avez fait du bien. » Un petit rien, quelques minutes, un peu d'attention, de bienveillance. Un petit geste probablement que cette grand-maman avait fait plusieurs fois pour ses propres enfants, puis les petits-enfants à elle aussi. Mais une pure étrangère en apparence, qui s'est faite proche de l'autre, serviteur, servante de l'autre, esclave de l'autre, on pourrait dire, à la suite de Jésus, de ce qu'Hélène nous a dit. Elle a brisé la solitude et la détresse de cette maman, accablée par les trois enfants qu'elle devait traîner au centre d'achat en plein hiver avec la sloche, et vous devinez la neige qui se mêle aux roues du carrosse et tout ça. Un collègue de l'université qui est marié et papa, et un bon mari, je pense bien, il y a un bon papa aussi, a écrit un petit livre sur le lavement des pieds. Il a appelé ça « Le lavement des pieds », un « asacrement », comme un « a privatif ».« A » près d'union « sacrement ». Il dit même dans la dernière page de couverture « Jésus a institué un sacrement et l'Église n'en a pas voulu ». Vous verrez tout à l'heure en vivant le lavement des pieds que c'est vraiment un signe sensible qui nous instruit profondément et qui nous donne l'amour de Dieu, qui nous fait goûter l'amour de Dieu. Parce que la grâce de Dieu, c'est la faveur, la grâce, l'amour de Dieu que nous recevons et partageons. Et ça crée entre nous des liens qu'on ne peut presque pas raconter. Comme Hélène le disait, des liens d'intimité. Si je vous lave le pied, si vous me lavez le pied, on n'est plus comme avant, toi et moi. Il y a un lien qui s'établit. Si on prend conscience aussi du contexte dans lequel Jésus lave les pieds, c'est un moment extrêmement dramatique de sa vie. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père. Au cours d'un repas, Alors que le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu et s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, prenant un linge, s'en saignit, puis il mit de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qui était à sa ceinture. Pouvez-vous imaginer la solitude de Jésus à ce moment? Par les évangiles synoptiques, nous apprenons plus de détails sur les circonstances. L'isolement de Jésus, l'immense incompréhension de sa personne et de sa mission, même au milieu des disciples, le rejet qu'il éprouve. Il est rejeté par le Sanhédrin. Nous sommes habitués de penser aux Juifs, aux prêtres du Temple, aux Sanhédrins, aux pharisiens, aux scribes, comme des gens méchants. C'est pas nous, on ne se reconnaît pas en eux. C'est pas du monde méchant, c'est du bon monde, c'est du saint monde. C'est ça qui fait encore plus mal. Si c'était des grosses brutes épaisses, au moins, si c'était des Hells Angels, des criminels, des vrais méchants comme on voit dans les films, là. Mais non, c'est du très bon monde. C'est la sainte institution du saint peuple de Dieu. Et la sainte institution du saint peuple de Dieu décide, celui-là, il vaut mieux qu'il meure. pour le bien du peuple. Nous savons que Jésus avait des défenseurs au Sanhédrin. Nous connaissons Nicodème et Joseph d'Arimathie, qui ont pris la défense de Jésus. À chaque fois qu'on sortait le dossier Jésus, puis qu'on en parlait, ils prenaient la défense de Jésus. Mais ils ont perdu. On ne les a pas écoutés. Et quand Jésus meurt, ils se compromettent pour le cadavre de Jésus. Ils vont ramasser le cadavre de Jésus et l'ensevelir. Nous ne savons pas ça dans les évangiles, mais comme nous connaissons la discipline des Juifs, comme ils se sont compromis en faveur d'un maudit, d'un excommunié, ils sont eux-mêmes excommuniés. Et ils sont eux-mêmes maudits et ils perdent tous leurs droits dans le peuple juif. Ils perdent tout parce qu'ils se sont compromis pour Jésus. Et ils le font avec Jean et Marie et des saintes femmes qui sont restées proches et qui observent le tout. Jésus est dans la solitude la plus pénible, celle qui l'isole seul. Et les synoptiques ajoutent une couche de plus. Même ses intimes qui vont au jardin de Gethsémani dorment au lieu d'être avec lui. Vous n'avez même pas été capable de veiller une heure avec moi. Vous pouvez dormir maintenant. L'heure est venue. Et Judas s'en vient. C'en est un autre, ça, Judas. Judas, souvent les images pieuses nous le présentent comme un bonhomme laid, avec une verrue sur le nez, puis un poil au bout de la verrue. Il ne peut pas être autrement qu'un traître. Il est tellement laid, tellement méchant, il est venu au monde pour être traître. Erreur! Judas, ça pourrait être moi. Je peux être le Judas de Jésus. Et dans l'Église, il y a beaucoup de Judas de Jésus. Judas, il ne veut pas trahir Jésus, il ne veut pas livrer un sang innocent à la mort. Jésus a annoncé à tous ses disciples, on va monter à Jérusalem, puis là les grands prêtres, les scribes vont me tuer. Et le troisième jour, je ressusciterai. À chaque fois que Jésus disait ça, les disciples ne comprenaient pas. Mais voyons donc, ça se peut pas, c'est du si bon monde. Ça croit au bon Dieu, puis tout surtout. C'est du bon monde. Ben voyons donc, penses-tu qu'ils vont te massacrer? Ça se peut pas. Mais non, ça se peut pas. Et Judas pense comme ça. Ben voyons donc. Laisse-moi ça. Judas, c'est le René Angélil de Jésus. Je vais te mettre en marché. Je vais te donner la chance de rencontrer le Sanhédrin. Puis là, ils vont t'entendre. Et là, ils vont voir que tu as de l'autorité, puis que c'est bon ce que tu enseignes. Puis là, ils vont t'ouvrir toutes les portes partout, tu vas voir. Comme Céline Dion. Mais ton René Angélil, je vais te mettre en marché. Qu'est-ce qui m'amène à vous dire ça? Regardez ce qui arrive après. Qu'on sorte de la ville la nuit avec des gardes armés, c'est un peu normal. C'est dangereux d'ouvrir les portes de la ville la nuit. On ne fait jamais ça. C'est exceptionnel. Alors Judas, il s'en vient avec cette troupe-là. On vient devant Jésus, il sait où aller. Puis il a désigné Jésus, parce que sur les images, Jésus est facile à reconnaître, il est habillé en blanc, il a des beaux grands cheveux lisses, puis des belles dents palettes américaines. Alors, c'est facile à reconnaître, c'est le seul qui a l'air d'un Américain avec des cheveux longs. Alors, c'est Jesus, of course. Mais dans la réalité, Jésus, il ressemble à Pierre, à Philippe, à Thomas, à Jacques, à Jean. peut-être pas à Jean autant, parce que Jean était plus jeune apparemment, mais il ressemble à tous les autres. Alors pour le désigner, aller le saluer avec un baiser, c'est pas méchant. Ça devient méchant par le sens que ça va donner. Jésus sait que c'est la livraison à ses ennemis. Et que là, les ennemis jouent le rôle du Satan, l'adversaire. Et Jésus rentre dans le jeu des adversaires. Il n'a plus d'initiative. Désormais, ce sont ses ennemis qui ont toutes les initiatives. Et même quand Jésus réplique la vérité, chez Caïphe, à Pilate, ça ne compte pas. Vous avez une garde, faites-y ce que vous voulez. Jésus est seul, abandonné même par les apôtres. Ce que Jésus avait prévu, et Pierre avait protesté, « Jamais je ferai ça avant que le jour se lève, tu vas m'avoir renié. » Jésus est seul. Seul, incompris, rejeté et livré à la méchanceté. Et la méchanceté de ceux qui devraient être ses plus intimes, non seulement les disciples et les apôtres, mais même le Sanhédrin, même le Temple, ceux qui entretiennent supposément la relation d'alliance avec Dieu. Et ça, c'est plus dur encore pour Jésus. Et il est excommunié, un maudit qu'on va tuer cruellement. Le lavement des pieds, comme Hélène l'a souligné tout à l'heure, c'est un enseignement que Jésus leur a donné, un exemple qu'il leur a donné. C'est, comme Hélène le soulignait, la seule fois où Jésus dit « Je vous donne un exemple ». Il nous enseignait beaucoup de choses, qu'il vivait, mais le dire explicitement, ce que je viens de faire là, vous devrez le faire, vous autres aussi. Moi, le Seigneur et le Maître, je me suis comporté comme un esclave à l'endroit de chacun de vous, même à l'endroit de Judas. Et vous devrez faire ça entre vous. C'est le signe sensible que je vous laisse. Et François Nau, mon collègue, dans son livre « Un assacrement, le lavement des pieds », souligne beaucoup ce signe sensible qui donne la grâce, qui donne la capacité de comprendre Jésus et en même temps de comprendre qui nous sommes, nous, comme disciples du Christ, comme héritiers de sa mission. Partenaire de sa mission. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné pour que vous le fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Dans l'évangile de Jean, comme Hélène le soulignait, il n'y a pas de récit de l'institution de l'Eucharistie, du dernier repas pascal. Mais le lavement des pieds en tient lieu. On trouve en Saint Jean la théologie de la passion de Jésus et de son dernier repas. La théologie de l'Eucharistie. La théologie des petits mots que nous trouvons dans le récit de l'institution telle que saint Paul l'avait appris par la tradition. Je vous ai transmis ce que moi-même j'avais reçu. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain, le bénit, le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit du vin, le bénit, le leur donna en disant, « C'est mon sang, livré pour vous. » Faites cela en mémoire de moi. Faites quoi en mémoire de moi? Célébrer l'Eucharistie comme nous le faisons, nous rappelons ce que Jésus a fait. Bien sûr, et ça les catholiques, on ne manque pas notre coup. On célèbre ce moment de la vie de Jésus tous les jours. Mais il y a un aspect de cette phrase qu'on ne voudrait pas comprendre. Faites cela en mémoire de moi, c'est aussi livrer votre corps et verser votre sang, vous aussi, pour que le monde échappe à la servitude du mal, pour la rémission des péchés. Livrez votre corps et versez votre sang, vous aussi. Donnez votre vie, vous aussi. C'est ce que signifie le don du sang et du corps de Jésus. Je donne ma vie pour vous. Faites de même. Donnez votre vie pour les autres. Quand Hélène racontait la relation que nous avons avec les enfants à l'Arche, c'est une relation qui nous dépouille de notre grandeur, je dirais presque de notre raisonnement intellectuel, et qui nous fait vivre avec notre corps une relation d'altérité, d'amour profond, mais pas d'amour abuseur, d'un amour vrai, qui dit « Tu peux compter sur moi, je veux que tu vives et je veux que tu sois heureux. » Et je veux que tu échappes à la servitude du mal, même dans ta condition. Hélène qui recevait, comment il s'appelait le...
Vincent,
on l'avait mis sur toi.
Loïc.
Hélène qui reçoit Loïc sur elle. Enfin, on lui met Loïc sur elle. Ça aussi, c'est un sacrement, un signe sensible qui l'a changé. Qui l'a instruite, et je pense que ça a dû faire du bien à Loïc aussi. C'est mutuel, un signe sensible. Et un moment d'intimité profonde avec une autre personne. Ceux et celles d'entre nous qui ont reçu des soins à l'hôpital ou dans un centre de réhabilitation, on peut le faire en étant comme révolté. Ça m'est arrivé à moi de me faire changer dans mon lit. Et j'avais presque envie de rire quand j'ai repris conscience. J'avais presque envie de rire en disant « Je suis Jésus que l'on change. Je suis Jésus que l'on lave. » C'est pas quelque chose qu'on pense de vivre dans notre vie. Être Jésus qu'on va soigner, qu'on va laver, qu'on va... soigner, qu'on va tourner dans son lit, qu'on va changer de linge, on ne pense pas à ça. On aime mieux aller visiter Jésus malade chez les autres. J'aime mieux voir Jésus dans Hélène que Hélène qui va me traiter en Jésus en ayant soin de moi. Ça, on ne pense pas à ça, cet aspect-là d'être Jésus pour les autres. Dans la Beauce, on a une expression que certains d'entre vous doivent connaître. C'est difficile de se laisser avoir soin. C'est comme une mission de dire, c'est à mon tour de me laisser avoir soin. Et c'est ça qui m'amusait quand je me réveillais à peine là, du coma, puis qu'on avait soin de moi. C'est à mon tour. Ben oui. Alors on va vivre le lavement des pieds. Un signe sensible institué par Jésus-Christ qui nous donne l'amour de Dieu et des autres. Amen.